Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de Graines de Croissance, le podcast de Crélan pour les entrepreneurs et les entrepreneuses en pleine croissance. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet important, majeur même pour les PME à l'heure actuelle, c'est la durabilité entre levier de croissance et contrainte. Et pour nous en parler aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Anne-Catherine Trinon. Bonjour Anne-Catherine.
Bonjour.
Vous êtes Managing Director chez Cap Conseil, un cabinet belge expert en RSE, responsabilité sociétale des entreprises, reporting durable et stratégie d'économie circulaire. Alors Anne-Catherine, merci d'être des nôtres évidemment. On va poser le cadre peut-être ensemble et voir quels sont les défis auxquels font face les entreprises en pleine croissance à l'heure actuelle. Vous avez rejoint vous Cap Conseil en 2022, il y a 3 ans, après une solide expérience en tant que entrepreneuse. Pour vous, Anne-Catherine, qu'est-ce que la durabilité signifie concrètement pour une PME?
Pour moi, la durabilité pour une PME, c'est vraiment tenir compte de ses impacts, de ses enjeux. Quels sont les impacts de mes activités? Quels sont les effets de mes activités sur l'environnement, tout ce qui a lieu au niveau social et au niveau de la gouvernance?
Alors, pour vous, c'est quoi les principales difficultés que peut rencontrer aujourd'hui une PME en matière de durabilité?
Je dirais que les grands enjeux sont, premièrement, pouvoir vraiment aborder c'est quoi mes impacts, c'est quoi vraiment mes enjeux, et pas seulement ceux pour lesquels on a des chiffres ou des éléments, mais vraiment réellement aller dans le dur. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément qui est un très gros défi pour les entreprises, c'est, OK, une fois que j'ai identifié quels sont mes impacts, c'est comment est-ce que je vais trouver les données et qu'est-ce que je vais mettre en place en termes d'action pour atténuer en fait ces impacts.
Ok, et qu'est-ce qu'on fait alors pour avoir accès aux données?
On se fait aider. Parfois on rame un peu, hein, sort les paquets, on y va, ça va dépendre des sujets. Il y a des sujets où on s'aperçoit que finalement on a les informations dans l'entreprise, mais elles sont disséminées. Souvent, on est obligé quand on fait de la durabilité de ranger sa chambre. C'est-à-dire que les informations, elles se trouvent dans l'entreprise, mais dans différents départements. C'est la grande différence entre la durabilité d'ailleurs et la comptabilité. La comptabilité, c'est le département finance, tout s'y trouve. La durabilité, ça va être un petit peu chez le RH, un petit peu en environnement, un petit peu en logistique. Ça va toucher en fait tous les départements de l'entreprise.
Ouais. Alors, qu'est-ce qui bloque? Parce qu'il y a souvent une bonne volonté, évidemment. Toutes les entreprises ont envie d'être impeccables en matière de durabilité. Mais qu'est-ce qui peut bloquer dans le passage de l'intention à l'action?
Je crois qu'il y a le temps, parce que ça prend du temps pour aller chercher toutes ces informations-là. Il y a le temps, avoir de la disponibilité. On sait qu'aujourd'hui, les entreprises, elles travaillent en flux tendu. Et donc, elles n'ont pas obligatoirement le personnel à disposition pour faire ce genre d'exercice. Et donc, je crois que ça, c'est un des premiers facteurs. Et je dirais que le facteur principal qui pourrait aider, c'est une vraie volonté du dirigeant. S'il n'y a pas une vraie volonté à la tête, si ça vient du personnel, c'est parfois un peu plus compliqué à mettre en place.
J'imagine. Alors, Anne-Catherine, vous êtes formatrice belge en GRI pour Global Reporting Initiative. Depuis 10 ans, vous êtes aussi porteur de standards à travers Cap Conseil, hein, comme ce GRI que j'évoquais ou la CSRD, hein, la Directive européenne de reporting. Comment est-ce que vous pouvez nous expliquer en gros ce que ça signifie et est-ce que ces critères s'appliquent à des PME ou à des plus grosses entreprises?
Oui, alors, j'ai un peu démythifié ce qu'est la CSRD. Hein. Donc la CSRD, elle s'adresse plutôt aux grandes entreprises. Hein. Donc c'est un instrument mis en place par la Commission européenne, notamment dans le cadre du Green Deal, qui est l'objectif fixé par la Commission de réduire ses émissions de CO2 d'ici 2030 de 45% et puis d'aller au-delà par la suite et d'être neutre en fait pour 2050. Et la grosse problématique derrière, c'est comment est-ce qu'on peut mettre ça en place pour pouvoir, en fait, par rapport à ce Green Deal, l'idée de la Commission, c'est de dire on a des milliards à disposition, mais il faut qu'on puisse les utiliser à bon escient. Pour les utiliser à bon escient, il faut savoir où on doit investir. Pour savoir où on doit investir, il faut que les entreprises rapportent, disent ce qu'elles font pour qu'on puisse les aider. Et donc, au départ, on visait les grandes entreprises, et c'est toujours le cas aujourd'hui avec la CSRD, est sorti entre-temps un instrument plus accessible pour les PME, qui est la VSME. Donc, c'est un peu, si vous voulez, un peu la petite sœur de la
moins
CSRD.
Moins exigeante?
Alors, d'abord, c'est un dispositif qui n'est pas obligatoire, mais qui est volontaire. Mm-hmm. Dans VSME, il y a V, voluntary. Donc ça, c'est le premier élément. Ceci dit, cependant, les organismes bancaires vont de plus en plus pousser les entreprises à faire ce reporting VSME. En fait, la VSME, elle est née aussi du fait que pour que les grandes entreprises qui sont liées à la CSRD, où là, on va leur demander un reporting lourd qui doit être audité et qui comprend quand même énormément de données sur lesquelles on doit rapporter, elles doivent souvent se tourner vers leur chaîne de valeur et donc se tourner vers les plus petites entreprises pour leur demander des informations. Et donc là, la commission a quand même sorti un truc qui était bien, c'est de dire, on va sortir un reporting volontaire qui est le maximum d'informations que les plus petites entreprises devront fournir pour éviter qu'on parte dans tous les sens. Et je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire les PME, elles n'ont pas que ça à faire, quoi. Elles n'ont pas l'argent, la disponibilité pour pouvoir engager du personnel pour aller chercher ce genre d'infos. Et donc, on vient sur ce reporting VSME qui, lui, va comporter des éléments volontaires. On va y retrouver des éléments liés au bilan carbone. On va retrouver des éléments liés à l'environnement, au social et à la gouvernance. Mais je peux rentrer un peu plus dans les détails sur comment se passe le processus à ce niveau-là, qui est le même qu'on soit avec la grande sœur, CSRD, ou la VSME. Ça va être d'abord, c'est quoi mes enjeux? Donc, déterminer, regarder par rapport aux activités de l'entreprise, qu'est-ce que je fais tous les jours et quels sont les impacts de mes activités? Donc ça, élément commun. Le deuxième élément que nous, on aborde de cette manière-là, qui n'est pas obligatoire, mais qu'on trouve intéressant de rajouter, c'est identifier la chaîne de valeur en amont et en aval de nos activités. Parce que ça va permettre également de déterminer certains enjeux. Et le troisième élément, ça va être, en dehors de ces enjeux, de déterminer quels sont les risques ou les opportunités financières liées à ces enjeux. Et c'est là, en fait, qu'est le cœur du moteur. Parce que les enjeux, on peut vite les avoir déterminés, mais par contre, c'est sur les risques et les opportunités que l'entreprise va vraiment avoir une plus-value. Mmh. Et par exemple, on travaille pour l'instant, on accompagne une entreprise dans le nord de la Belgique, enfin du côté de Moucron, qui ponctionne en fait un certain nombre de pourcents dans la nappe phréatique de cette région. Super, jusqu'ici tout va bien, l'entreprise est en pleine croissance. Il y a quand même une étude qui est sortie il y a quelques mois au niveau de la région wallonne et qui tend à démontrer que dans les années à venir, l'eau, c'est quand même un gros enjeu, quoi. Il ne l'avait pas vu. Et donc, c'est vraiment un risque qui a été identifié à partir de leurs impacts en disant, là-dessus, là maintenant, il faut vraiment travailler. Et comme on le dit aussi souvent, Olivier Amand, l'auteur de tout ce qui est lié en fait à la robustesse, dit lui-même, en fait, on répare son toit quand il fait beau. Ce qui veut dire que c'est quand on a les moyens financiers et qu'on a encore les possibilités de le faire qu'il faut s'intéresser à ces sujets-là et anticiper la suite pour justement construire des entreprises robustes qui vont pouvoir tenir la route avec les fluctuations.
Mmh. Vous parlez de ce reporting VSME. Est-ce que les PME sont à même de faire ça en interne ou est-ce qu'elles doivent se faire aider pour pouvoir proposer un tel reporting?
Alors, je ne vais pas prêcher pour ma chapelle. Je pense qu'avec un peu de bon sens, finalement, la durabilité, c'est du bon sens. Hein. C'est prendre le temps de se poser, de se dire, dans ce que je fais, il n'y a pas uniquement le fait d'électrifier ma flotte ou de venir à vélo ou ce que j'entends parfois aussi, on a mis des fruits à la cantine. Oui, c'est super. Pour éradiquer la faim, j'entends parfois ce genre de choses. Ça, c'est le béaba. En fait, il faut aller au-delà ces éléments-là. Et je pense qu'il y a moyen, en tout cas, de faire pas mal de choses soi-même. La VSME, c'est en fait un grand fichier Excel qui vous demande toute une série d'informations à rapporter. On peut très bien dire, je fais le minimum, je vais chercher les infos et voilà. Ou je m'engage un peu plus loin et je me dis, sur la base de ma consommation d'eau, de ma consommation d'énergie, du nombre d'accidents de travail que j'ai par an dans mon entreprise, je retrousse mes manches et j'y vais vraiment, quoi. Et là, je mets un plan d'action en place. Et ça, c'est toute la différence.
Mmh. Alors, on parle de VSME et de CSRD. Pour quel type d'entreprise est-ce qu'on va avoir quel reporting?
La CSRD, elle va s'adresser aux entreprises. L'obligation, c'est 1000 collaborateurs, 50 millions de chiffre d'affaires et 25 millions d'euros à l'actif. Donc, on parle vraiment déjà d'entreprises, c'est déjà des bonnes tailles. Ouais. Il y en a en Belgique. Hein. Mm-hmm. En dessous de ça, selon les nouveaux seuils fixés par la Commission depuis février, on se retrouve sous le reporting volontaire qu'est la VSME.
Mmh. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, l'enjeu de la durabilité, est-ce que les entreprises le voient comme un levier stratégique ou plutôt comme une contrainte, ben, notamment pour les plus grosses entreprises qui sont contraintes à ce reporting via la CSRD?
Souvent, et c'est ce que la CSRD a apporté aussi aux grandes entreprises et au secteur de la durabilité et aux responsables de RSE des entreprises, c'est qu'auparavant, le responsable RSE, il était un peu dans son coin, il disait « bon, écoute, t'as un coût, hein, donc essaye que ça nous coûte le moins possible, fais pas trop de bruit, on a besoin de toi pour un rapport par an, mais viens pas trop nous embêter. » Et bah, le responsable RSE travaillait sur une stratégie durable, mais qui ne remontait pas au niveau de la stratégie de l'entreprise. Mmh. Aujourd'hui, avec la CSRD, ben, ces éléments-là doivent remonter au niveau stratégique et les grandes entreprises commencent quand même à voir l'intérêt et l'avantage de le faire. Et je reviens sur les problématiques de risques financiers et d'opportunités financières que les grandes entreprises peuvent saisir au niveau stratégique. Pour les plus petites entreprises, ben, c'est déjà amené une stratégie parce que souvent les PME n'ont pas de stratégie. C'est un peu, j'avance à l'opportunité, j'ai... une demande par-ci, une demande par-là, je construis... Moi qui ai créé mon entreprise au départ, c'est vrai qu'on accepte un peu tout. Et puis, au bout d'un moment, on se dit, bah, tiens, je vais peut-être essayer d'avoir une vision ou mettre un peu une mission et fixer des valeurs. Mais on n'a déjà pas obligatoirement ces éléments-là. Et donc, un reporting de durabilité va amener en fait ce socle et va permettre à l'entreprise de se structurer et déjà de pouvoir élaborer peut-être une première stratégie ou de venir renforcer la stratégie existante.
Mmh. Alors, j'ai une PME, j'ai envie de me lancer dans une démarche de durabilité. Je commence par quoi ?
Je commence par réfléchir à quels sont mes enjeux. Donc, je reviens sur la même chose. Donc, au niveau environnement, qu'est-ce qu'on peut voir ? Mais on va avoir, on va retrouver effectivement tout ce qui est bilan carbone, puisque ça, c'est souvent le premier élément, qui pour moi n'est pas obligatoirement central, mais voilà, c'est souvent par là qu'on va commencer. On va retrouver toutes les questions liées à la consommation d'énergie. Et donc là, qu'est-ce que je peux déjà faire ? Est-ce que j'ai une vieille chaudière ? Comment est-ce que ça se passe ? Est-ce que je ne peux pas déjà travailler à ce niveau-là et mettre un premier plan d'action ? Et puis, en termes de pollution, on parle toujours, nous, à notre niveau, de trois éléments, l'air, l'eau et le sol. Et donc là, on va tout couvrir, en fait. Parce qu'avec l'air, l'eau et le sol, on va parler des ressources, on va parler de ce que je produis et des effets directs et indirects de mes impacts. Le volet social, ben on va y retrouver tout ce qui est lié à mes collaborateurs, à la diversité, à l'inclusion. Enfin, on peut avoir plusieurs éléments et donc on peut rapidement avoir une première checklist en disant, bah, tiens, est-ce que ces impacts sont importants pour moi, oui ou non ? Et là, on rentre dans des processus de priorisation en disant, bah, tiens, qui trop en rase mal étreint, ça ne sert à rien que je commence à travailler sur 15 sujets. Je vais les lister et puis je vais me dire, bah, tiens, je prends mon top 5, par exemple, en essayant quand même d'avoir un mix entre tout ce qui est environnement, social et gouvernance. Et à ce niveau-là, je vais commencer à travailler. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose qui est intéressante pour la PME, et ça peut lui apporter vraiment un avantage différentiel, et c'est la même chose pour les grandes, c'est que bah, c'est bien à un moment donné de consulter son écosystème, ses parties prenantes. Parce que sinon, en fait, c'est comme si on travaillait dans sa cuisine en se disant « bon, ça, allez, je vais mettre ça parce que je pense que là, j'ai des informations ». Mais c'est peut-être pas le sujet principal. Et donc, c'est toujours intéressant de lier ça à ses parties prenantes et de poser la question dans son écosystème, à ses clients, ses fournisseurs, ses partenaires financiers, ses collaborateurs. Donc, tout l'écosystème de l'entreprise, c'est les parties prenantes. Et à ce niveau-là, ça peut s'organiser de différentes manières, mais leur poser la question, ça permet de les impliquer. Et des études tendent à démontrer que, sur le long terme, c'est payant. Parce que En écoutant ces parties prenantes et en mettant en place des éléments et des plans d'action qui répondent à leurs demandes, on rentre dans un processus vertueux qui fait qu'à terme, c'est payant pour l'entreprise.
Mmh. Est-ce que vous auriez, bah, vous parliez de chaudière, d'autres exemples d'actions peut-être simples et rapides à mettre en place et qui permettent déjà bah, d'entrer pleinement dans cette démarche de durabilité ?
Oui, alors... Ce que je vois beaucoup qui sont des choses simples et rapides à mettre en place, c'est parfois simplement interroger ses collaborateurs, voir si on peut, si je parle d'environnement, parfois les gestes simples de voir si on peut pas réguler mieux le chauffage dans l'entreprise, de voir si on peut pas organiser du covoiturage, si on peut pas organiser en fait le temps de travail différemment. Ça permet aussi de réduire un certain nombre de coûts. Au niveau, parce qu'on là on parle environnement, ça peut être aussi consommation d'eau. J'ai vu des entreprises, que il y en a une que dont on s'occupe pour l'instant. Lui, ça fait des années qu'il a travaillé sur un processus vertueux. C'est un imprimeur de récupération d'eau et de filtration de son eau en fait. Alors au départ, ça peut paraître un peu important comme processus et ça coûte, mais il m'a dit en quelques années, c'est rentabilisé. Donc c'est vraiment une réflexion à avoir. C'est en fait une c'est de la notion de bon père de famille et de gestion en bon père de famille. Qu'est-ce que je mets en place qui, sur le long terme, me rapportera, quoi, et me permettra d'être autonome. Alors, c'est peut-être pas les premiers gestes auxquels on pensera, mais parfois, c'est vraiment intéressant de se pencher là-dessus. Peut-être aussi au niveau social, si j'ai des problématiques d'accident du travail, alors peut-être dans des entreprises plus, mais dans des PME, il y a aussi, on travaille aussi parfois, il y a un certain nombre de d'outils, de machines, oui, outils, etc., ouais, avec des risques de blessures. C'est peut-être mettre en place de la communication simple. Parfois, on oublie ça, remettre des affiches, communication simple, pour amener des processus de base, quoi, qui sont souvent pas là, parce qu'on n'y pense pas, parce qu'on a d'autres priorités. Et ces éléments-là sont des petits gestes simples qui peuvent améliorer le quotidien.
Mmh. Vous parliez de la chaîne de valeur, des parties prenantes de mon entreprise. Qu'est-ce qu'ils peuvent apporter comme info concrètement sur la durabilité de mon entreprise ?
Alors, par exemple, si on prend l'amont d'une chaîne de valeur, qu'est-ce que je vais retrouver ? Souvent, je dis, l'amont, c'est qu'est-ce que vous achetez pour réaliser vos activités ? Et là, ça peut parfois être intéressant de se dire, tiens, j'achète comment et où ? Et donc là, on va toucher aux achats durables à un moment donné, en se disant, tiens, est-ce qu'il n'y a pas des éléments sur lesquels je peux avoir un impact ? Ça permet de se poser la question aussi des matériaux. Finalement, quels sont les matériaux que j'utilise ? Est-ce que je ne pourrais pas utiliser des matériaux plus vertueux ? Est-ce que je n'ai pas un risque, en fait, sur certains matériaux ? Il y a peut-être un risque de pénurie. J'ai eu le cas d'une entreprise dans le secteur médical qui, avec les mesures prises par Donald Trump, s'est retrouvée comme c'était une petite entreprise dans le secteur médical. Les grandes entreprises avaient déjà pompé une grosse partie du stock de seringues, je pense, dont ils avaient besoin. Donc, c'est qu'est-ce que je vais mettre en place ? Comment est-ce que je vais pouvoir anticiper, en fait, le marché ? Parce que finalement, c'est ça. Donc là, voilà, quelques exemples qui sont intéressants au niveau de l'amont. Et l'aval, là, je vais retrouver tout ce qui est lié à l'économie circulaire, à la fin de vie. Comment est-ce que je peux valoriser certains de mes
déchets ?
De mes déchets, ouais. Est-ce que je peux en faire des coproduits ? Comment est-ce que je peux travailler à ce niveau-là ? Comment est-ce que je peux être plus vertueux sur cette partie-là ? Et là, moi, je rencontre quand même pas mal d'entreprises qui ont mis en place des filières qui leur permettent de récupérer de l'argent, quoi.
Mmh. Ouais, formidable. Alors vous, en tant que praticienne de l'économie circulaire, comment est-ce que vous abordez les sujets comme justement le bilan carbone auquel vous avez déjà fait allusion, ou les business models régénératifs ?
Alors, bilan carbone, mais voilà, donc il y a ce fameux scope 1, scope 2, scope 3, hein, scope 3 étant le plus compliqué. Moi, je crois que la première chose, c'est de faire un premier bilan. Et donc, souvent, ça fait peur aux entreprises. C'est vrai que ça coûte un peu d'argent de mettre ça en place parce qu'il faut aller chercher les données. Mais le premier bilan permet aussi de se dire, tiens, sur cette base-là, quel est mon plan d'action ? En fait, moi, un bilan carbone, c'est d'abord de l'Excel, mais ce qui est intéressant derrière, c'est qu'est-ce que j'en fais ? Et c'est comme toutes les actions de reporting, en fait. Je peux simplement dire, je consomme autant d'eau, c'est ça mes déchets, et basta. Et je ne change rien chaque année. C'est une option. Mais sur le long terme, en termes de durabilité, c'est un peu nul, quoi.
Ouais.
Et donc là, il faut pouvoir réfléchir à des plans d'action. Donc le bilan carbone est un premier élément. L'économie régénérative, là, on va un pas plus loin. C'est un peu plus complexe à mettre en place, puisque là, on va vraiment toucher au business model. Donc, on va se poser la question de, est-ce que je continue à faire de la croissance à tout prix ? Et qui dit croissance à tout prix dit, je vais piocher dans les ressources qui, malheureusement, ne seront pas là ad vitam aeternam. ou est-ce que j'essaie de développer, au lieu de, en fait, l'économie régénérative, pour le dire très simplement, pour moi, c'est on arrête de réfléchir au chiffre d'affaires, on va regarder le bottom line. Pourquoi ? Parce qu'en fait, bah, le chiffre d'affaires, on peut le faire avec la croissance et se dire, bah, je fais autant, c'est génial. Le bottom line, on peut le construire avec différents éléments. Et donc, c'est réfléchir à, est-ce qu'il y a certains produits que je pourrais mettre en leasing ? Est-ce que je ne peux pas, à la place de fabriquer 1000 frigos, en fabriquer 100, mais mettre en place un système de service après-vente qui fait que ben, le frigo, il a une fin de vie beaucoup plus élevée. Donc, j'arrête d'être dans de l'économie où au bout de 2-3 ans, on jette son frigo. Enfin, les frigos, ça dure plus longtemps, mais voilà. Donc, ça, c'est une possibilité. Donc, l'économie régénérative, elle va toucher à des business models qui sont plus des business models de l'économie de la fonctionnalité. Donc, je vais utiliser des produits en fonction de mes besoins. Par exemple, un exemple très concret, l'économie de la fonctionnalité, c'est les voitures partagées. Je fabrique moins de voitures, mais je les mets à disposition 24 heures sur 24 pour ceux qui en ont besoin. Donc voilà, mais donc là, ça demande une réflexion tout autre, puisque pour l'économie régénérative, il y a deux possibilités. Enfin, si je devais simplifier, on parle de deux modèles. Le premier, c'est arrêter la croissance à tout prix. Donc, avoir une réflexion tout autre à ce niveau-là. Et la deuxième chose, c'est réduire ses impacts au seuil. Donc, toucher, essayer d'aller au maximum de ses possibilités. Et une fois qu'on a réduit ses impacts au seuil, la deuxième chose, c'est développer des impacts positifs au niveau de mes activités qui soient largement supérieurs à mon solde d'impact négatif. Ça, c'est l'économie régénérative. Donc, c'est quand même relativement complexe à mettre en place.
On est bien d'accord. Comment est-ce qu'une PME peut agir durablement sans donner l'impression de faire du greenwashing, c'est-à-dire de communiquer plus vert que ce qu'elle fait réellement ?
Pour moi, la clé, c'est l'authenticité, la transparence. Dites ce que vous faites. Personne n'est parfait. Même nous, hein. Allez, on n'est pas parfait tous les jours, quoi. Hein. On travaille dans la durabilité, mais qui suis-je pour dire que je suis parfaite ? Loin de là. Mais je le dis. Et je suis transparente et authentique par rapport à ce que je fais. Et donc ça, c'est vraiment le premier élément. Vous avez un incident dans l'entreprise ? Dites-le. Dans des rapports de développement durable, nous, on dit toujours aussi, présentez ce qui va bien, mais aussi ce qui ne va pas bien. Soyez vrai. C'est ce qu'on attend de vous. Et ça, c'est une des clés du greenwashing.
Ouais, on est d'accord. Comment est-ce que vous traduisez cette stratégie durable en indicateurs solides et compréhensibles pour l'entreprise ? On parle de reporting, mais de KPI, indicateurs clés de performance, trajectoire, etc.
Alors moi, je me base d'abord toujours sur ce que fait l'entreprise, parce qu'il y a des indicateurs que l'entreprise utilise. Et donc, partons d'abord des indicateurs de l'entreprise et venons rajouter des éléments supplémentaires. Mais partons d'abord du cœur du business. Ça évite aussi, ça permet de gagner du temps et ça parle en fait aux dirigeants parce qu'on reste sur des éléments connus. Et donc, à partir de ces indicateurs, voyons ce qu'on peut rajouter. Mais keep it simple, venons avec des choses simples et qui sont atteignables. Donc ça, c'est aussi en termes d'action, de plan d'action. On peut faire des plans d'action à 3 ans. Mais pour moi, ce qui est important, c'est d'avoir une politique des petits pas. Je peux me dire, j'ai quelques indicateurs à la base et puis chaque année, je vais en rajouter un ou deux. Mais je ne vais pas complexifier les choses, quoi.
Alors, on sait que vous avez une expérience, que vous travaillez avec pas mal d'entreprises. Pour nous donner peut-être un cas concret, quelle aurait été la meilleure décision prise par une PME dans sa transition vers la durabilité ?
Une entreprise, je ne pourrais pas la citer, qui utilise l'eau en fait pour refroidir le produit qu'elle met sur le marché et qui a pris la décision en se rendant compte que, à terme, l'eau qu'elle utilisait de la rivière qui coule près de chez elle, ça risque de poser problème, a commencé à mettre en place d'autres techniques pour récupérer cette eau et pour la faire vivre différemment.
Le déclencheur pour agir et franchir ce pas-là, ça a été quoi ?
Ça a été le fait que, après avoir réfléchi avec eux, leur dit, tiens, si le niveau baisse, vous faites comment ? Là, l'entreprise est à l'arrêt. Donc, le premier déclencheur, dans tous les cas, qu'on le veuille ou non, en termes de durabilité, c'est l'argent, hein.
D'accord. Si vous aviez 3 conseils très concrets à donner à une PME qui souhaite justement s'engager davantage dans la durabilité et même peut-être commencer une démarche de durabilité, quels seraient-ils ?
Prendre le temps, faire ça calmement. Comme j'ai dit, keep it simple. Donc vraiment, Ça ne sert à rien de développer une usine à gaz. On commence par des premiers éléments. Consulter ses parties prenantes. On peut le faire en amont. Déjà, en termes stratégiques, tiens, ça permet d'apporter des éléments sur, tiens, qu'est-ce qu'on attend de moi? Qu'est-ce qu'attendent de moi mes clients? Et de pouvoir déjà développer des petites choses à ce niveau-là. Essayer de structurer la démarche et d'emmener ses collaborateurs dans la démarche. Faire ça tout seul, ça ne marche pas. Il faut emmener du monde.
Mmh. Oui, c'est mieux. Alors, il y a certaines entreprises qui visent une certification B Corp, par exemple. Est-ce que vous pensez que c'est une voie intéressante, ça, pour une PME, ou est-ce qu'il vaut mieux se concentrer peut-être d'abord sur d'autres priorités?
La certification B Corp, elle va aller toucher à tous les pans de l'entreprise. C'est une certification, hein, donc aujourd'hui, les entreprises cherchent aussi des médailles, hein, que ce soit EcoVadis ou autre. On cherche toujours à avoir un peu de gratification. Mm-hmm. Mais l'avantage de B Corp, je trouve, c'est qu'on va avoir un apport stratégique. Comme on doit améliorer les choses d'année en année, puisqu'on doit se faire recertifier et qu'on a un audit derrière, etc. Certaines entreprises, et je peux citer IBA par exemple, utilisent B Corp comme outil stratégique. C'est leur outil d'indicateur stratégique. Et donc, il y a moyen de l'utiliser à ce niveau-là. Donc ça, je trouve intéressant de pouvoir le faire. Ouais. Ça va mettre aussi l'accent sur ce que je dois améliorer. Donc B Corp va mettre en avant, vous allez mettre en avant ce que vous faites déjà de bien. Et puis alors, il y aura des éléments où vous direz, bah tiens, là, je suis peut-être un peu plus faible, c'est là où je pourrais améliorer les choses.
Mmh. Alors, on le sait, hein, la durabilité va être de plus en plus intégrée dans les années à venir. Quels sont les grands chantiers là, qui s'annoncent pour les PME?
Ben, je crois que le premier grand chantier pour les PME, c'est ce fameux reporting volontaire, parce que ça va déjà prendre énormément de temps, je pense, au niveau des PME.
Il va devenir obligatoire, celui-là, à un moment
donné? Il ne sera jamais, à mon avis, okay. Obligatoire, ou en tout cas dans un premier temps. Mais les banques, ce qui peut en est, c'est que quand même les organismes financiers viennent de s'organiser par rapport à ça, et donc il va y avoir des demandes. Moi, je pense que l'autre élément, c'est que à terme, on va quand même pouvoir valoriser son entreprise en fonction aussi d'éléments de durabilité qu'on aura introduit dans tout le processus. Je dirais que il n'y a pas vraiment dans les années à venir des éléments volontaires ou obligatoires qui vont arriver, mais il est clair que les grandes entreprises vont mettre aussi la pression sur les plus petits. Bilan carbone, moi, ça me semble être un élément qui semble un peu immuable. Le deuxième élément, c'est certainement commencer à travailler plus en termes d'achat durable, voir ce que je peux faire à ce niveau-là, parce que je pense que les PME ont un vrai effet de levier sur cette partie-là. Et tout ce qui est économie circulaire, valorisation, pour améliorer aussi le pied de bilan.
Merci Anne-Catherine Trinon pour vos conseils, vos idées, votre expertise. Merci à vous toutes et tous pour votre écoute. N'hésitez pas à partager cet épisode de Graines de Croissance s'il vous a plu. Laissez-nous vos commentaires. Si vous souhaitez plus d'infos, n'hésitez pas à aller sur le site crelan.be ou aller voir tout simplement votre agent Crelan. À très bientôt.